des nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le Festival mondial des arts nègres, tenu à Dakar en 1966, prend avant tout la forme d'une célébration culturelle massive. Musiciens, artistes, politiques et intellectuels sont réunis autour de concerts, de pièces de théâtre et de colloques divers et variés. Il est impossible évidemment de considérer ce festival comme étant culturellement uniforme. C'est un syncrétisme géant, réunissant des personnalités des quatre coins de l'Afrique, ainsi que des États-Unis, de l'Amérique du Sud, ou encore des figures issues du milieu intellectuel français, comme André Malraux. L'événement n'a d'ailleurs pas pour vocation de prôner une quelconque union sacrée ou une uniformité. Tout est fait pour que les débats et les échanges intellectuels, parfois même virulents, aient une place centrale. On y parle notamment beaucoup des figures les plus connues de la négritude et des intellectuels africains, se demandant notamment s'ils seraient devenus trop déconnectés des réalités de leur peuple, trop loin de leurs racines, trop influencés par les cultures coloniales dans lesquelles ils ont dû baigner pour atteindre ce statut. Césaire, Senghor et bien d'autres se sont effectivement rencontrés à Paris. La création de la revue Présence africaine par Alioune Diop en 1947 se fait elle aussi à Paris, encouragée par une foule d'intellectuels français, comme Jean-Paul Sartre, André Gide ou Michel Léris. Pourtant, une voix, et pas des moindres, va s'élever pour dénoncer l'absurdité de ces accusations. Celle de Jacques Rabé-Monandjar, dans cette intervention intitulée « Permanence de l'art nègre », enregistrée le 14 avril 1966. Le poète et homme politique malgache, bien que beaucoup moins connu aujourd'hui que certains de ses collègues, fut lui aussi un membre central du mouvement de la négritude, tout en endossant, à l'instar de Senghor, des responsabilités politiques conséquentes. Il vient ici fustiger l'inquiétude presque passéiste qu'il y a au festival autour du nouvel art noir. Les ancêtres étant morts, il ne faut pas, selon lui, les singer, mais plutôt avancer vers une esthétique plus haute, plus ambitieuse encore, celle d'une Afrique créatrice qui cessera de sacrifier son inspiration sur l'autel d'une quelconque authenticité.
Il y a quelques jours, prenez fin, les travaux du colloque, du festival. Le colloque était la manifestation proprement intellectuelle du festival. Vous avez entendu ici un certain nombre d'intellectuels, écrivains, poètes, africanistes, historiens, théologiens même. Vous avez assisté au débat et vous avez entendu vous avez entendu lire les recommandations et résolutions qui ont constitué les conclusions des travaux de ce colloque. Nous vous avons annoncé également que, à la suite du colloque, s'organiserait une série de conférences publiques données par des personnalités éminentes de différents milieux, de différents pays, de différentes origines, des Européens et des Africains. Et l'une de ces personnalités, précisément, est M. Jacques Rabé-Monandjar. Jacques Rabé-Monandjar, ministre malgache de l'économie, puis de l'agriculture. Et vous le savez, de ceux qu'on a appelés les trois grands de la littérature noire d'expression française ou de la négritude. Cela peut surprendre certains si l'on songe que Rabé-Monandjar est originaire de Madagascar, dont il a été l'élu. C'est un des militants de la première heure pour l'indépendance de nos pays. Parmi les leaders, il est de ceux qui ont qui ont payé de leur chair, de leur vie presque, la cause pour laquelle ils ont combattu. Il a fait près de 10 ans de prison à Madagascar à la suite des événements de 1947. Il est aussi un des plus grands poètes noirs d'expression française. Il a publié un certain nombre d'œuvres que vous trouverez exposées et il a milité avec nous depuis plus d'un quart de siècle. Il a milité au milieu de gens qui lui ont manifesté énormément de sympathie en raison de la noblesse de son cœur. Il suffit de lire ses ouvrages pour se convaincre que ce mot noble n'est pas une simple clause de style. En raison de la noblesse de son cœur, de l'élévation de sa pensée, et aussi parce qu'il a été un des premiers malgaches à rejoindre le groupe d'Afrique noire et à s'affirmer solidaire de cette civilisation commune qu'est la civilisation africaine. Madagascar est un petit peu en marge de l'Afrique, mais on ne peut nier qu'il y ait eu des liens au cours de l'histoire entre les peuples de Madagascar et ceux de l'Afrique. Il est un des premiers artisans de cette solidarité intellectuelle entre les dirigeants, les responsables de la Nouvelle Afrique. Il n'a pas eu l'occasion de prendre la parole au cours du colloque parce qu'il a failli ne pas venir, retenu par des responsabilités très importantes et parce qu'il est arrivé en retard. Nous avons insisté auprès de lui pour qu'avant de prendre son avion demain matin, il accepte de s'adresser à vous. Je le remercie d'avance et c'est après sa conférence que vous vous rendrez compte que Jacques, comme nous l'avons connu, est vraiment un militant de la première heure et un artisan de la négritude, de la civilisation de la négritude. Je lui passe la parole.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous dois tout de suite un aveu. Comme vous l'a dit Alioune Diop, j'ai longtemps hésité avant d'accepter l'honneur que mon ami me proposait de prendre la parole devant vous. Le pauvre malgache que je suis, enfant d'une île lointaine, quelque peu sauvage, habitué à humer les vents du large, à sentir l'odeur profonde de la latérite, se trouvait mal à l'aise, perdu dans ces dédales de débats et de discussions d'une rare maîtrise où des savants, des spécialistes de tous bords et de tous les horizons sont venus s'affronter, se confronter pour solenniser un somptueux festival, ce que j'appellerais le sacre du printemps de la culture nègre. Nous autres malgaches, nous avons le goût, nous avons la passion des choses et la passion des visions au ras du sol. Et j'ai peur, grandement peur, de faire scandale de détonner devant un aréopage d'hommes éminents, d'esprits choisis pour la distinction de leurs talents et pour l'ampleur de leur science. Alioune Vladi, ministre de l'Agriculture d'un pays sous-développé, j'ai pour charge de palper de la boue, de pétrir de l'humus, de déchiffrer les mystères de la terre, d'être, ou tout au plus de me rendre, sensible, attentif aux liens qui nouent subtilement entre elles la germination de la graine, la fécondité de la glèbe et ces forces obscures qui composent dans la semence la jonction intime de l'homme et du limon. Voilà mon rôle. Dans le tourbillon d'idées agitées ces jours-ci à Dakar, et en écoutant les spéculations de haute résonance dont a retenti en particulier cette enceinte, je me mettais à rêver. Et voici mon deuxième aveu, le fruit de ma méditation, l'objet de mon rêve. Car, parmi les thèmes débattus au cours de ce colloque, il en est un qui nous a vivement frappés. L'inquiétude, la préoccupation dont on a fait montre sur l'avenir dans le domaine de l'art, de l'authenticité nègre. Les soucis provoqués par la vaste, la fourmillante menace qui pèserait, paraît-il, sur la permanence de la poétique nègre. Le monde actuel, en effet, n'est-il pas caractérisé, dominé par une loi inexorable, transformation, la transformation ou la mort. La mystique diffusée, semble-t-il, a contaminé la planète. Tous les siècles est marqué du signe de la vitesse. Comment, dans ce vertige des métamorphoses, comment les arts nègres pourront-ils échapper à la règle, demeurer eux-mêmes, garder la plénitude de leurs vertus, leur totale intégrité, toute leur innocence? Et de se gausser sur l'impossibilité pour nos créateurs d'aujourd'hui, pour nos artistes, pour nos poètes, pour nos écrivains occidentalisés, l'impossibilité, paraît-il, de refaire, de revivre la geste de leurs ancêtres. Les fabricants des masques sont morts et bien morts. Ils nous auraient seulement laissé le souvenir prestigieux, la belle marque d'un génie à jamais disparu. Allez voir, nous convitons avec grâce. Visitez votre musée dynamique. Que de choses belles, des morceaux incomparables, des pièces uniques. Ces sculptures, ces masques, recueillez-vous les nègres. Admirez. Mais résignez-vous aussi, hélas. Aucun d'entre vous, paraît-il, ne ressentira cet art comme l'ont ressenti vos ancêtres, comme ceux-là qui ont créé ces figures. Voyez-vous, mesdames et messieurs, je me souviens de mon jeune âge. J'ai pris joie à apprendre la cantilène de Sainte-Eulalie, à me familiariser avec les charmes du français dans le commerce des troubadours, de la Pléiade, dans le lyrisme d'un Ronsard, les périodes d'un Bossuet. Dois-je conclure pour autant que Rimbaud, Claudel, Aragon, Éluard, Mauriac, Malraux, Sartre témoignent avec moins d'éclat que Rabelais, Racine, Montesquieu, Voltaire de l'authenticité et de la splendeur du génie français? Mais il y a pire. S'ingénier durant toute une semaine à nous prendre gentiment par la main pour nous initier nous-mêmes à la signification de nos rites, à nous révéler les autorismes de nos légendes, de nos magies, de nos danses, de notre musique. Je ne crois pas qu'il se soit trouvé un seul nègre que la leçon magistrale n'ait atteint en plein cœur. Il y a, dans les relations humaines, surtout dans les échanges spirituels, des délicatesses, des nuances dont il serait néfaste de franchir la frontière. Loin de moi l'idée de minimiser les résultats du colloque. Bien au contraire, nous en mesurons pleinement la portée. Un événement d'une dimension sans référence dans l'histoire non seulement de la culture noire, mais de la culture tout court. L'aboutissement de toute une série de luttes héroïques, l'apothéose de tant d'efforts déployés pour faire enfin reconnaître sans conteste l'originalité, la saveur, la tonalité de nos valeurs dans l'harmonie du Conseil universel. Et c'est le moment choisi par certains nostalgiques de l'époque des préjugés pour nous décocher la flèche du parti. Ils poussent la mauvaise foi jusqu'à douter de notre africanité, à suspecter la véracité, l'orthodoxie de notre négritude. Sommes-nous encore des Africains, des Malgaches, nos maîtres à penser, nos ancêtres selon l'esprit? Vénérons-nous des noms différents de ceux qu'évoque l'intellectuel de la Seine ou de la Gironde? Ceux-là précisément qui ont palabré, bramé ces temps derniers dans les amphithéâtres de Dakar, ne se réclament-ils pas, je parle des francophones, mais je peux en dire autant des anglophones, ne se réclament-ils pas au même titre que les habitués de Montparnasse ou les familiers de Saint-Germain-des-Prés, de la famille de Descartes, de Pascal, de La Fontaine, de Molière, de Voltaire et de tant d'arrière-petits-fils de Gaulois à tête ronde dont les noms n'évoqueront jamais rien à leur peuple? Bien sûr, ils sont bien affligés de leur impossible couleur. Je l'ai entendu dans le couloir, de cette absurde singularité de leur peau. Mais ces élites-là sont-elles autre chose qu'une version, dans une chair de tropique, d'une humanité irréductiblement française ou anglaise? Nous serions tellement coupés de nos sources. La culture occidentale aura définitivement triomphé du restant d'atavisme, du reliquat de nègrerie endormi aux coins les plus obscurs de notre être. Le miracle européen aura si bien opéré en nous qu'il aura creusé un abîme entre nous-mêmes et notre peuple et que nous sommes devenus, en face de ce dernier, de véritables étrangers. Y a-t-il rien de commun entre les Teilhardiens Sédar Senghor, haut dignitaire en Sorbonne, et l'humble Sénégalais de la savane, le brave paysan de la Casamance? Ces questions ont été posées dans les couloirs également. Senghor, Césaire, Damas et tant d'autres, des nègres, point. Nouveaux produits d'Aristote, oui. Nouveaux avatars de Cicéron, de Kant, de Marx, bref, nouveaux parvenus, nouveaux fleurons de la civilisation gréco-latine. Nous autres latins, rengorgeaient je ne sais quel poncif nègre du Sud-Amérique. Du reste, l'apanage du nègre, ils l'ont perdu. Ils ne savent plus danser, ils ne savent même plus rire. Mesdames et messieurs, je m'arrête. Je m'excuse de m'être quelque peu attardé sur ce genre de dialectique, ce faisceau d'allégations pernicieuses. Ce n'est ni par goût de caricature, ni par masochisme. Mais ce sont là des plaisanteries qu'on se plaît à galvauder, à répandre un peu partout, singulièrement dans les milieux dits de nos jeunesses universitaires, et je pense qu'occasion n'a jamais été aussi bonne que celle de ce soir pour en faire éclater le sophisme, pour en faire fi une fois pour toutes. Car enfin, de qui se moque-t-on? Nous ne savons plus danser. Nous ne savons plus rire. À qui la faute? Qui nous a empêchés de danser en rond tout le long des siècles? De danser selon la souplesse, selon les prurites de nos pieds, selon l'allégresse de nos cœurs, dans la paix merveilleuse du partage de nos pères. Qui? Qui a étouffé au germe, tué en nous la volonté de rire? Qui nous a enlevé jusqu'au tuf de l'âme le besoin, le goût du rire, pour ne laisser à la place que l'âcreté des larmes, que le sel de l'amertume? Ah oui, ce bon rire nègre, ce borborygme de fraîcheur, de spontanéité, jaillit des profondeurs de la genèse et des entrailles pour s'épanouir. Mouvante gerbe de cristal, sur les seules lèvres, les seules dents au monde aptes à en épouser amoureusement les lyriques éclats. Les bourreaux de nos valeurs, les assassins de nos rires, cela s'arroge maintenant. Le droit péremptoire de juger leurs victimes, de nous faire grief de la réussite de leurs besognes, du fruit parfait de leur œuvre. Soyons sérieux. Nous faut-il l'évoquer vraiment ici, la rude passion de l'Afrique? On ne l'oublie que trop aisément, l'interminable calvaire de la race noire. Aucun peuple au monde ne peut, comme elle, se prévaloir d'avoir charrié à la traîne de son histoire, dans sa chair comme dans son âme, autant de souffrances, autant d'agonie, autant d'injustices. Plus de 3 siècles de traite, mesure-t-on suffisamment la charge de crimes, de cruautés que recouvre l'abominable pratique? Des millions et des millions d'hommes, de femmes, arrachés à leur foyer, à leurs habitudes, à leur Dieu, à leur terre, à leur vie, à la vie, à la danse, à la sagesse. La dispersion sur les océans, dans les îles, sur les Amériques, la diaspora. Mais celle-ci n'a même pas eu le temps de souffler, de fixer sa tente, de se relever de son terrible traumatisme. Et voici qu'une catastrophe d'une autre forme, d'une autre violence, s'est abattue sur le continent lui-même, sur ceux de ses fils qu'avaient épargnés, dédaigneusement abandonnés au rivage, au cœur du pays, la cupidité, la piraterie des négriers, la colonisation. Vous me saurez gré de ne pas insister. Nous nous comprenons, je pense. Je vous demande simplement, placés dans une telle situation, serfs d'une condition aussi abominable, de quel homme peut-on exiger le goût du rire, le goût de la danse? Eh bien, vous tous qui m'écoutez ce soir, laissez-moi à mon tour vous convier au recueillement. Voici notre musée imaginaire. Admirez mes frères, sculptés dans le sang, faits de lambeaux de chair, de morceaux de rêve, la prodigieuse épopée de l'homme noir. Le miracle, en effet, c'est ceci. Tant d'épreuves, tant de vicissitudes, le massacre, la déportation, le déracinement, l'humiliation, l'injure, la férule, la chaîne, la chicotte. Rien n'a eu raison de la vitalité du nègre. Il a toujours su émerger de toutes les péripéties. Mieux encore, le plongeon dans la fournaise l'a trempé. Ces tragédies, ces grandes crises, il en a fait les sources fécondes de nouvelles émotions. Son malheur, au lieu de le dessécher, de tarir son inspiration, a eu le don d'amplifier son dynamisme, de lui imposer une vision, une esthétique plus haute, plus large que les seuls horizons de l'Afrique. Et ce n'est pas vrai, et c'est faux, archi-faux, d'avancer qu'il a perdu le sens de la danse, le goût du rire. Dans son exil, sur les bords du Nouveau Babylone, c'est merveille de le voir étonné, envoûter le monde par la vigueur de sa trompette, par la mélodie, la richesse et l'affinement de sa sensibilité d'écorché vif. Mississippi, pavoisé de soleil et de palmiers, Armstrong, Duke Ellington, blues incomparable, frénésie de jazz multicolore, l'homme devenu rythme, le rythme devenu homme, l'on ne sait plus quelle est la vérité, sinon que ce gémissement, cette déploration, ce déchaînement, ce délire, ce paroxysme, cette extase, que tout cela, c'est l'Afrique. L'Afrique, évidemment, de l'avènement avec sa tristesse, sa fureur, ses tempêtes, ses haines, ses imprécations, son ivresse, sa joie, sa fidélité, son amour, son vitalisme. L'Afrique aussi, le chant suprême, la danse funèbre, des holocaustes immolés sur les rails du Congo océan, des milliers de héros malgaches sacrifiés sur l'autel sanglant du colonialisme aux abois. L'Afrique aussi, les versets de Senghor, les cris hirsutes de Césaire, le couplet de tant d'autres poètes réputés difficiles, inaccessibles, et en raison de quoi reprochent leur effet de former un infime noyau d'intellectuels totalement coupés de leur masse, tout juste bon pour déviser, paraît-il, dans un salon parisien ou dans un cercle littéraire de la montagne Sainte-Geneviève. Nous connaissons le refrain, celui d'un vieil antienne, entonné par les colonialistes en d'autres temps pour faire accroire à tout prix notre prétendu isolement de notre peuple. Le fait que ce peuple se soit spontanément groupé, rangé derrière nous, atteste à quel point il a trouvé dans nos démarches, reconnu dans nos cris, dans nos appels, l'écho de ses propres élans, le double de ses plus profondes aspirations. Le brevet d'authenticité était là, puisque le peuple y reconnaissait son image, exaltait sa propre identité. Sédar Senghor, Alioune Diop, Aimé Césaire, Léon Damas, Birago Diop, Cheikh Anta Diop, etc., représentent chacun à sa manière, selon son tempérament, la stature idéale, la dimension rêvée du nègre qui voudrait affronter dans les conditions optimales de culture les multiples problèmes de notre temps. Ils sont non pas des points de coupure, mais des points de jonction entre la fidélité au passé et les exigences de notre siècle. Les ponts vivants jetés entre la tradition, le présent et l'avenir. Ils sont encore l'épanouissement plénier des virtualités intellectuelles cachées en chaque nègre et qu'il a mission de mettre au jour, de parfaire à la mesure de son destin. Voilà ce qu'il faut. Il n'y a pas plus de distance entre l'agrégé de grammaire et son sosie de la brousse qu'entre la racine de l'arbre et son allongé floral. Même substance, même sève, la riche sève de l'Afrique. Et leur poème alors? Qu'est-ce que la masse y comprendra jamais? C'est fait pour tout bab. Eh bien, parlons-en des poèmes. Quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit l'enveloppe, ces poèmes-là sont nègres jusqu'à la moelle des os. Aucun génie européen n'a été jusqu'ici capable de pareille création, tant celle-ci vibre d'un rythme, d'un souffle, d'une densité poétique absolument neuve, absolument inconnue avant leur intrusion dans la littérature moderne. La langue française leur sert seulement de support, de boubou chatoyant à l'expression de leur lyrisme, de voile diaphane sur la chair noire de leurs rêves. La preuve, elle a été l'autre soir au théâtre Daniel Sorano, magnifiquement administré par le Ristal de Bachir Touré, avec un talent consommé, une délicatesse, une simplicité sans bavure. L'artiste a su créer d'emblée l'ambiance, l'éclairage, la chaleur qu'exigeait la restitution du poème à son cadre d'origine. Dépouillés de leurs oripeaux d'emprunt, les vers, nus et beaux, évoluaient, piaffaient, dansaient, pleuraient, criaient, riaient, riaient du bon rire nègre, retrouvant soudain, sous l'incantation du tam-tam, dans la bouche lyrique du diseur, la totalité, l'innocence de leur négritude. L'émotion s'empare automatique, intense, irrésistible de l'immense nef. Les distances sont abolies, comblées tous les fossés, et loges et balcons et parterres, tous se mettent avec une ferveur égale à communier dans l'unique passion de la grande mère, l'Afrique. Viendra-t-on encore se lamenter sur l'hiatus mortel entre nos intellectuels et nos paysans? Nous parler avec des trémolos dans la voix de la disparition de nos coutumes, de l'oubli des traditions africaines? Dites, l'avez-vous encore entendu à l'orée du crépuscule sur les landes bretonnes, les chansons des druides? Et les bons citoyens de l'île Saint-Louis dansent-ils encore sous les chênes, haches brandies, à la gloire de je ne sais quel sombre dieu de la nuée? Je ne sache pas que la tradition dite française s'emporte plus mal. Les adeptes de l'urmansule et les adorateurs de vaudou n'ont pas à se prévaloir d'être plus fidèles à la tradition de leur peuple que les disciples de Voltaire, les moines de Solem et les contemporains d'Alioune Diop gorgés du lait novateur de l'alma mater. La vérité est bien simple. La vocation d'une tradition, ce n'est pas de se figer sur elle-même, mais de s'épanouir dans de perpétuelles métamorphoses, rester elle-même en brisant les coquilles anciennes dans l'élaboration des formes nouvelles, toujours plus riches de vie. Césaire l'écrivait. Pour nous, je cite, « Pour nous, le problème n'est pas d'une utopique stérile tentative de réduplication, mais d'un dépassement. Ce n'est pas une société morte que nous voulons faire vivre, revivre. Nous laissons cela aux amateurs d'exotisme. C'est une société nouvelle qu'il nous faut, avec l'aide de tous nos frères esclaves, créés, riches de toute la puissance productive moderne, chaude de toute la fraternité antique. » Mesdames, messieurs, vous l'avez deviné. Ma conclusion ne saurait être qu'un chant d'espérance. Ah non, je ne partage pas, mais pas du tout, le pessimisme de ceux qui voient le soleil africain entouré d'un halo d'éclipse. Que l'Afrique traverse des heures parfois sombres, qu'elle connaisse de remous à vous faire trembler, n'est-ce pas dans la nature de l'histoire? L'Afrique en a vu d'autres. Et tous mes efforts consistaient à vous montrer comment elle a su surmonter ces drames tenus tête aux orages. Aujourd'hui, son destin repose entre les mains de ses enfants. Jamais au cours de sa longue histoire, elle n'a bénéficié de conditions aussi propices. Il appartient à chaque nègre d'en prendre pleinement conscience. L'un des propos du festival, c'est justement cela. Ma foi est donc grande en l'Afrique. Sculpture, masque, chant, ballet, tam-tam, ces bariolages de couleurs, ces chatoyements de rythme, de frissons, de transe. Je songe avec émotion aux performances des danseuses maliennes, aux évolutions divines des filles du Burundi, à la souplesse inénarrable des bambins ivoiriens. Dans tout cela, vous saisissez les raisons de mon optimisme. Tout cela témoigne de la bonne santé de l'art nègre. Ensemble, souhaitons-lui heureux destin et longue vie. Merci.
C'était la conférence de Jacques Rabé-Monandjar, intitulée « Permanence de l'art nègre », enregistrée le 14 avril 1966 à l'occasion du Festival mondial des arts nègres de Dakar.